voilà, on entend les bips. France Inter, il est 19h. Le journal avec vous, Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. La première noyade d'un migrant officiellement reconnu dans la Manche. Une femme d'origine iranienne qui n'a pas pu être sauvée. Les associations rappellent que la traversée vers l'Angleterre, c'est aussi une frontière qui tue silencieusement, mais qui tue. La veillée d'armes à Hong Kong avant la nouvelle mobilisation générale annoncée pour dimanche. Les manifestants du mouvement pro-démocratie se sont réunis ce soir dans un parc de la ville et dans le calme. Une rentrée scolaire pas plus chère que la précédente. En CP et en lycée, les prix n'ont pas bougé. Un peu plus cher en revanche au collège. Et surtout pour les étudiants, l'UNEF évoque une hausse de la vie étudiante cette année à près de 3%. Dans ce journal également, Donald Trump qui voudrait offrir aux États-Unis le Groenland. Rumeur ou vraie proposition? Le Danemark, quoi qu'il en soit, n'est pas vendeur. Un taux d'arsenic supérieur à la normale pour 38 enfants du Carcassonnais. Les parents dénoncent l'incurie des pouvoirs publics. Le coup d'envoi de la Liga, le championnat de foot espagnol, Barcelone, grandissime favori, le Real de Zidane en embuscade. Le conseil cinéma de Jacqueline Petros, un film d'animation japonais, Le mystère des pingouins. Un temps pluvieux dans la moitié nord, demain matin, plus lumineux l'après-midi, nous dira Elodie Calac. Et puis le téléphone sonne juste après ce journal avec vous, Éric Delvaux. Oui. Internet et l'écologie.
Oui, quel bilan carbone pour nos usages numériques. Eh bien, vous verrez que ce n'est vraiment pas terrible. Il y a non seulement la fabrication des matériels, il y a aussi nos usages, hein, cette manie que nous avons de télécharger et de stocker. Alors, dans quelle proportion est-ce que ça pollue? Eh bien, on verra ça après le journal. Rendez-vous au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure. Elle est la première victime par noyade officiellement reconnue dans la Manche. Parmi les migrants qui tentent la traversée vers l'Angleterre, une femme tombée à l'eau d'un petit bateau n'a pas été retrouvée. Une femme d'origine iranienne, selon ses compagnons d'infortune, qui eux ont été repêchés. Depuis 8 jours, 30 migrants, dont 2 se trouvaient dans un kayak, ont été interceptés par les autorités britanniques. 11 autres secourus par les Français au large de Boulogne. Pour les associations de soutien aux migrants dans les deux pays, il ne faut pas oublier que la Manche est aussi une frontière qui tue, silencieusement, mais qui tue. Marina Daras à Londres.
Les autorités britanniques et les associations venant en aide aux migrants redoublent d'efforts pour dissuader les migrants de traverser la Manche dans des canots de fortune. La semaine dernière, une jeune iranienne est tombée en mer alors qu'elle tentait une traversée sur un canot gonflable, avec à son bord 19 autres personnes, dont 4 enfants, tous originaires d'Iran et d'Irak. Le niveau d'alerte avait été relevé en décembre dernier après une hausse des tentatives de traversée de la Manche. Un plan d'action avait été mis en place entre le Royaume-Uni et la France pour augmenter la surveillance des plages et des ports. Du côté britannique, 3 hélicoptères de la force frontalière et 2 patrouilleurs surveillent la côte. Mais pour les ONG, ce sont les politiques frontalières toujours plus violentes qui poussent les migrants à emprunter cette voie meurtrière pour atteindre le Royaume-Uni. En moins d'un an, près de 1200 migrants ont risqué leur vie en tentant de traverser l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Effectivement, selon les chiffres de la préfecture maritime de la Manche, 1276 migrants ont été sauvés depuis le début de l'année par des opérations conjointes franco-britanniques. Ils étaient 583 l'année précédente. Des nouvelles de l'Open Arms, le navire humanitaire espagnol toujours bloqué au large de Lampedusa, où le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, lui a interdit d'accoster. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a pourtant annoncé qu'un accord européen avait été trouvé entre 6 pays, dont la France, pour accueillir les 134 migrants recueillis à bord. 13 d'entre eux ont été évacués à ce jour pour raisons médicales. Des milliers de manifestants dans un grand square de la ville à Hong Kong, c'était un peu la veillée d'armes ce soir, en attendant une nouvelle mobilisation qui s'annonce massive après-demain dimanche. C'est en tout cas l'espoir du mouvement pour la démocratie qui compte sur une nouvelle démonstration de force face à Pékin, dont les menaces d'intervention militaire se font de plus en plus pressantes. Valérie Crova, vous êtes à Hong Kong où tout s'est passé ce soir dans le calme.
Et oui, le rassemblement de ce soir a été à l'opposé des scènes de violence vues à l'aéroport de Hong Kong mardi. Des milliers de jeunes hongkongais et moins jeunes ont écouté avec attention les différents intervenants qui se sont succédés, soit physiquement, soit par message vidéo, comme ce député du Parti travailliste britannique qui a exprimé son soutien aux manifestants. Il a même demandé que des sanctions soient prises contre des officiels de Hong Kong, dont la chef de l'exécutif Carrie Lam, désignés par Pékin. Ce soir, les manifestants ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas des terroristes, comme certains journaux chinois les ont dépeints. Jack est étudiant en droit à l'université de Hong Kong. Il reconnaît cependant une sorte de frustration que certains peuvent ressortir après 2 mois de contestation.
Nous essayons d'exposer notre point de vue de façon pacifique. Certains d'entre nous, nous avons essayé des méthodes plus nerveuses pour dire notre colère, mais on ne nous entend pas. Alors nous pouvons essayer de trouver pour nous faire entendre un moyen plus pacifique, comme on l'a fait aujourd'hui, mais je pense que cela ne sert à rien. Aussi, j'attends beaucoup de la manifestation de dimanche.
Et dimanche, ce sera au parc Victoria, dans le nord de l'île, où l'on attend des dizaines de milliers de personnes, sinon plus. Ce sera un nouveau test de la mobilisation qui ne faiblit pas depuis 2 mois.
Valérie Crova à Hong Kong avec Jérémy Tuile. En Algérie, pareillement, la contestation se poursuit comme tous les vendredis depuis 6 mois. À Alger, notamment, la mobilisation est restée forte, encadrée des deux côtés de la rue par des véhicules de police. Et puis, elle n'ira pas visiter sa grand-mère en Cisjordanie occupée. L'élue démocrate américaine d'origine palestinienne, Rachida Tlaib, refuse les conditions imposées par Israël à sa visite, conditions qu'elle juge oppressives et racistes. Après lui avoir refusé l'autorisation d'entrée, à elle et à une autre élue américaine, le gouvernement de Tel Aviv avait finalement accepté qu'elle vienne à condition de ne pas militer contre Israël durant son séjour, ce qu'elle a donc refusé.
Le journal de 19h sur France Inter.
Quand les étudiants s'approvisionnent plus vite que le reste de la population, le constat est signé de l'UNEF, la principale organisation étudiante, qui a fait ses comptes comme chaque année pour la prochaine rentrée universitaire. Le résultat, une hausse de près de 3% du coût de la vie étudiante, hausse supérieure à l'inflation et qui serait due en grande partie au prix des loyers, Fabien Cazot.
Les loyers qui pèsent pour 2/3 dans le budget annuel des étudiants poursuivent leur hausse à la rentrée 2019 dans le parc privé, plus 4%, mais aussi dans les Crous à un rythme de 1,6%. Toutes les régions et les grandes villes universitaires sont concernées. L'augmentation est particulièrement sensible en Ile-de-France. Au passage, l'UNEF en profite pour redemander la mise en place d'un encadrement des loyers. La mesure avait été expérimentée à Paris et à Lille. Deuxième poste de dépense, les transports. Là aussi, ils augmentent partout. Leur prix explose même à Strasbourg, plus 25%. Seule la ville de Nice fait figure d'exception avec des tarifs en très nette baisse pour les étudiants. Les frais de restauration, eux aussi, augmentent plus vite que l'inflation, ainsi que les dépenses d'habillement ou encore de santé. C'est une conséquence de la suppression du régime étudiant de sécurité sociale en 2018, selon l'UNEF. La part des étudiants titulaires d'une complémentaire santé a fondu de 85 à 69% depuis 2 ans.
Et le coût de la vie est supérieur encore pour les étudiantes par rapport aux étudiants, en raison des moyens de contraception et surtout des protections périodiques dont l'UNEF demande la mise à disposition gratuite sur les campus. Pour les plus jeunes, en revanche, les scolaires, le coût de cette rentrée 2019 est le même qu'en 2018, avec toutefois des variantes. Selon les chiffres, cette fois de la Confédération syndicale des familles, ce sera moins cher en CP à 159 € la rentrée en moyenne et au lycée à 389 € pour la seconde. Un peu plus cher en revanche au collège à 361 €. Sur les marchés financiers, qu'arrive-t-il à General Electric? L'entreprise américaine qui avait racheté la branche énergie d'Alstom vient de connaître un sérieux coup de mou en bourse. Une chute de 11%, provoquée sans doute par les accusations d'un lanceur d'alerte, celui-là même qui avait déclenché les montages frauduleux de l'homme d'affaires Bernard Madoff. Il accuse aujourd'hui GE d'avoir falsifié ses comptes pour près de 40 milliards de dollars, Delphine Simon.
Oui, il s'appelle Harry Markopoulos, cet analyste financier s'est fait un nom en révélant dans les années 2000 les montages frauduleux de Bernard Madoff, le célèbre financier qui purge une peine de prison de 150 ans pour avoir trompé ses clients. Selon l'étude de cet analyste, General Electric aurait camouflé 34 milliards d'euros de pertes. Sa trésorerie est bien pire que ce que laissent croire ses comptes. L'étude conclut que GE est insolvable. Des accusations qui ont conduit le cours de bourse à dévisser, moins 11% hier à Wall Street. Dans un communiqué, l'industriel américain se défend contre, dit-il, des accusations dénuées de tout fondement. Il fait valoir que l'analyste financier auteur de l'étude est rémunéré par un fonds d'investissement qui parie justement sur la baisse des actions de General Electric. Le géant américain vient de traverser des années mouvementées. Sa valeur en bourse s'est effondrée, moins 200 milliards de dollars en 2017 et 2018. Hier, le PDG de GE a dû racheter plus de 250 000 actions de son entreprise, histoire de faire taire les soupçons de malversation.
Delphine Simon. Et si les États-Unis achetaient le Groenland? Une idée comme ça que le président Trump aurait lancée à la cantonade au cours d'un dîner. Si l'on en croit le Wall Street Journal, il aurait évoqué cette éventualité sur le ton de la plaisanterie. Mais d'autres commentaires y voient un objectif tout à fait sérieux. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Washington s'intéresse à cette île couverte de glace, propriété du Danemark, qui d'ailleurs n'a aucune intention de la vendre, ni à Washington, ni à personne. Va falloir remballer les dollars, Grégory Phillips.
À plusieurs reprises lors de réunions ou de dîners à la Maison-Blanche. Donald Trump a, selon le Wall Street Journal, émis le souhait d'acheter le Groenland. Le journal précise que le président américain a évoqué ce projet avec plus ou moins de sérieux, mais qu'en tout cas il a demandé à ses conseillers d'examiner cette possibilité. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis montrent un intérêt pour ce territoire stratégique. Déjà en 1946, Harry Truman avait proposé de racheter ses terres pour 100 millions de dollars, mais Copenhague avait refusé. Si Trump s'intéresse encore aujourd'hui à cette île et à ses 56 000 habitants, c'est parce que les Américains y disposent déjà d'une base militaire et qu'ils voudraient aussi, selon le Wall Street Journal, marquer l'histoire comme le président Eisenhower qui, à la fin des années 50, avait fait de l'Alaska le 49e État américain. Au Groenland, ces informations provoquent des réactions mi-outrées, mi-amusées. Le ministère danois des Affaires étrangères commente « Nous aimons faire des affaires, mais nous ne sommes pas à vendre », alors qu'une visite officielle de Trump au Danemark, justement, est annoncée pour le mois prochain. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
On verra bien s'il vient avec le chéquier. Dans la série Je revois ma géographie, on notera aussi ce soir cette proposition du président indonésien Joko Widodo qui voudrait déplacer sa capitale Jakarta vers l'île de Bornéo, une île que l'Indonésie partage avec la Malaisie et le sultanat de Brunei. Ce serait un moyen, selon lui, de favoriser le développement économique de Bornéo et de mieux équilibrer son pays. Ils sont venus dire leur inquiétude et leur colère à Carcassonne. Ce matin, une trentaine de parents réunis devant l'hôpital pour dénoncer l'empoisonnement de leurs enfants à l'arsenic. 38 enfants dont les analyses présentent un taux d'arsenic au-dessus des normes. La faute à une ancienne mine d'or fermée depuis 15 ans, mais dont les résidus toxiques auraient infiltré les sols suite aux inondations d'octobre. Reportage à Carcassonne, Emeline Ferry.
Les spasmes et les maux de ventre du petit Rio ont commencé juste après les inondations. Se souvient sa maman, Louisa.
Il met tout le temps ses doigts dans la bouche, donc ils ont dû ingérer beaucoup d'arsenic, puisqu'ils jouaient dans les cabanes, ils grattaient le sol et ils mettaient leurs doigts dans la bouche. Je suis en colère parce qu'après les inondations, il n'y a aucun principe de précaution qui a été fait. Les services publics, ils font rien du tout. C'est de la non-assistance à personne en danger.
Mais les inondations ne seraient que la partie immergée de l'iceberg pour Gilles, qui est persuadé que deux de ses enfants ont été contaminés par des particules d'arsenic dans l'air depuis des années.
C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas les effets à long terme. Nous, on souhaite rester là, on est propriétaire. Et aujourd'hui, on ne sait pas si, avec des taux comme ça, dans 20 ans, ma fille va développer une maladie, un cancer. Aucun parent ici n'a envie de prendre le risque. Or, on n'en est pas responsable.
Pourquoi personne n'a rien fait alors qu'on connaît ce risque depuis des années, se demande Magali.
Une énorme colère de dire mais comment on peut laisser des enfants en contact et puis pas protéger.
Pour les familles, l'ARS minimise la situation. On nous prend pour des imbéciles, confie une maman, convaincue que c'est avec de l'eau de source que sa fille a ingéré de l'arsenic.
Emeline Ferry. Une corrida qui fait polémique à Bayonne, ou plutôt c'est la présence de deux ministres, dont le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui ne passe pas auprès des associations de défense du bien-être animal, l'association L214 et la fondation Brigitte Bardot ont jugé scandaleux qu'il assiste à la mise à mort de 6 taureaux. Ce soir, des élus écologistes leur emboîtent le pas, dont l'eurodéputé Yannick Jadot et le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui dénonce un soutien affiché du ministre à un massacre, un spectacle lugubre. En foot, après la France et l'Angleterre, qui ont déjà repris les championnats nationaux, font leur rentrée à tour de rôle. Ce soir, la Bundesliga et la Liga, un championnat espagnol qui intéresse tout particulièrement les Français, avec ce soir le premier match officiel de Griezmann avec Barcelone. Le Barça qui reste le grand favori cette saison, mais qui devra compter sur les deux clubs de Madrid et notamment le Real, où Zidane, désormais contesté, va devoir prouver qu'il a bien fait de revenir. Pierre Chaperon.
C'est un défi pour Zidane. Après une fin de saison difficile, le Real Madrid revient avec un esprit de revanche. Pas la révolution attendue, où seul Eden Hazard apparaît comme le seul galactique parmi les recrues. Mais le Real n'a pas pour autant rassuré pendant la pré-saison. 2 victoires en 7 rencontres, 18 buts encaissés, résultat un Zidane critiqué dès le mois de juillet. De quoi l'inquiéter ? Pas si sûr.
Si j'avais pensé à ma situation personnelle avant de revenir, je ne serais pas revenu. Je ne pense pas à mon image. Je sais où je vais avec mes joueurs, je sais ce que je veux. Et on va essayer justement de faire, de mettre en place en fait des choses pour justement être compétitif. Gagner des choses, c'est la conséquence. C'est-à-dire que si on est compétitif, si on est bon, si on est préparé, on aura certainement des choses intéressantes à avoir en fin de saison.
Une compétition difficile puisque pendant ce temps-là, les autres grands clubs espagnols se sont renforcés. Le champion du monde Antoine Griezmann et le prodige néerlandais Frankie de Jong pour Barcelone, en attendant peut-être l'arrivée de Neymar, ou encore celui que l'on présente comme un joyau, le portugais João Félix, 19 ans, côté Atlético de Madrid. Bref, une concurrence aiguisée qui rendra peut-être ce championnat plus indécis que l'an dernier. Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Et le premier match ce soir, donc le Barça contre l'Athletic de Bilbao. Allez au cinéma ce week-end, parmi les conseils du service culture de France Inter, un film d'animation du japonais Hiroyasu Ishida, Le mystère des pingouins. C'est encore les vacances, l'histoire du jeune Aoyama et de son enquête sur ces pingouins qui ont envahi sa ville réjouira petits et grands. Jacqueline Pétros a bien aimé.
Aujourd'hui, j'ai calculé que je vais devoir attendre encore 3888 jours avant de devenir adulte.
Aoyama, enfant précoce, est un esprit scientifique très sûr de sa valeur et qui a déjà planifié sa vie. Le grain de sable a cela de particulier qu'il prend la forme de centaines de pingouins.
Ça alors, qu'est-ce que je vois ?
Un pingouin.
Avec son ami Ushida, sympathique peureux à lunettes, et Yamamoto, la fille la plus brillante de la classe, Aoyama découvre de surprenants phénomènes. Le trio décide de les étudier seul, malgré le harcèlement de Suzuki, le méchant de la classe. Et la clé de l'énigme semble être la jolie assistante du dentiste, à qui Aoyama va s'attacher. Mais un jour, les adultes entrent dans le jeu.
Des adultes sont en train de fouiller la forêt.
Je voudrais tellement faire quelque chose pour qu'ils reviennent.
Je sais ce qu'il me reste à faire.
Le mystère des pingouins est une énigme onirique. Aoyama entre dans l'âge de l'émoi, des sentiments, la rédemption du méchant, les adultes dépassés et la séparation sont des thèmes abordés avec poésie et humour. Dessins, couleurs, animations, Le mystère des pingouins est un très beau film aux personnages attachants.
Ne pleure pas, Aoyama. Je vous retrouverai.
Le mystère des pingouins au cinéma cette semaine. Sur la route, ça coince en vallée du Rhône ce soir, Kevin Dufraîche.
Oui, sur l'autoroute A7 vers le nord, ça coince à partir d'Avignon, mais surtout vous mettez 3 heures pour aller d'Orange à Lyon, c'est 2 fois plus long que d'habitude. Et l'autre gros point noir, c'est Orléans, où l'A71 est fermée dans les deux sens. Au niveau de la jonction avec l'A10, résultat, beaucoup de bouchons, notamment sur l'A10 vers le sud. Il vous est conseillé, si vous venez de Paris, d'emprunter plutôt l'A11 vers le Mans, puis l'A28 pour aller jusqu'à Tours. Demain, ça s'annonce très compliqué. Bison futé, voie rouge dans le sens des retours. Même chose dans le sens des départs dans un bon quart sud-ouest et le long de la Méditerranée.
Kevin Dufraîche, PC Mobilité de Radio France. La météo, bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
De la pluie dans la moitié nord demain.
Oui, on a une perturbation qui arrive par la Bretagne en ce moment. Elle va poursuivre sa route. Demain, il pleuvra des Pays de la Loire vers le centre, la région parisienne, le nord et l'Alsace avec des pluies parfois marquées. Près de la Manche, ça sera quand même plus calme. Pas mal de nuages, quelques éclaircies et à peine quelques gouttes. Sur la moitié sud, là vous profiterez d'une journée très ensoleillée. Le vent va quand même s'orienter au sud, donc il apportera des nuages bas sur le littoral de l'Aude jusqu'au Var. Et puis sur la montagne Corse, pourquoi pas une petite averse l'après-midi.
Et quid des températures ?
Alors 13 à 21 degrés le matin, ça baissera sur le nord-ouest et le nord l'après-midi avec 19 à 23 degrés. Mais dans le sud, 27 à 33 degrés, même 35 à Montélimar. Dimanche, une journée agitée avec de la pluie, de la Vendée et des Charentes vers les frontières du nord et puis du sud-ouest vers le Jura, les Alpes. Là ça deviendra chaotique l'après-midi avec des averses et de l'orage.
Élodie Calac de Météo France, merci.